Radio
session devant l'Assemblée nationale.
La présidente vénézuélienne par intérim a promis une réforme partielle de la loi sur le pétrole sans donner plus de détails. Le pays n'a pas peur d'affronter diplomatiquement les États-Unis, dit-elle un peu moins de deux semaines après l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse. Pendant ce temps-là, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado était reçue à la Maison-Blanche. Elle a remis à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix. Une médaille peut changer de main, mais pas le titre d'un lauréat, a réagi dans la foulée le Nobel Peace Center. Le président américain a lui salué un geste magnifique.
Washington, selon qui le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact.
Alors que des soldats français, allemands, britanniques, néerlandais, mais aussi danois, finlandais, norvégiens ou suédois ont été dépêchés sur place. Une acquisition du territoire par les États-Unis est toujours hors de question, lance le chef de la diplomatie danoise, quand Berlin justifie l'envoi de troupes par des menaces russes et chinoises dans l'Arctique. Des capitales européennes pas tout alignées sur cette mission. RFI Bruxelles, Pierre Benazé.
La vocation de l'opération Endurance Arctique est de démontrer que le Groenland ne constitue pas un trou dans le filet sécuritaire. Contrairement à l'argument des États-Unis, nous ne permettrons ni à la Russie ni à la Chine d'utiliser l'Arctique à des fins militaires, martèle le ministre allemand de la Défense. Loin de montrer la détermination des alliés européens, l'opération risque surtout d'ouvrir une brèche au sein de l'OTAN. Tous les Européens veulent un rôle plus grand pour l'OTAN dans l'Arctique, mais le vice-chancelier allemand estime que la relation transatlantique est en train de se dissoudre. Plusieurs pays d'Europe centrale et orientale se positionnent avec une prudence extrême. La Pologne, désormais la plus grande puissance militaire européenne, a choisi de ne pas envoyer de troupes au Groenland. Malgré l'inquiétude affichée par le Premier ministre Donald Tusk, les Baltes, eux, évoquent le besoin d'identifier les intérêts communs avec les États-Unis. Les Européens se sont mis en situation de devoir choisir soit le soutien au Danemark face à la Maison-Blanche, soit le soutien à l'Ukraine, pour lequel il faut l'aide des États-Unis. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI.
Moscou a par ailleurs fait part de sa sérieuse inquiétude après l'annonce de cette mission, assurant que ses supposées visées sur le Groenland étaient un mythe. Aujourd'hui, Mette Frederiksen, la première ministre danoise, reçoit à Copenhague une délégation du Congrès américain. Son homologue groenlandais sera également de la partie. Lui est en visite en Chine. Mark Carney a rencontré le président Xi Jinping. Le premier ministre canadien a, en marge de cette rencontre, salué un nouveau partenariat après des années de brouille entre les deux pays. Cela faisait 8 ans qu'une rencontre de tel niveau n'avait pas eu lieu entre les deux pays.
Après l'entrée dans la phase 2 du plan américain pour Gaza et la mise en place d'un comité de gouvernance palestinien, le Conseil de la paix pour Gaza a été formé.
Et c'est Donald Trump, encore et toujours lui, qui le fait savoir. C'est d'ailleurs le président américain qui le dirigera. Il a promis de prochainement dévoiler les noms des membres qui le composeront. Conseil de la paix qui supervisera le comité palestinien.
Pendant ce temps-là, Israël a publié un appel d'offres pour la construction de logements en Cisjordanie occupée.
Dédié aux colons de la zone E1, c'est à l'est de Jérusalem. Cet appel qui scelle un projet de colonisation israélienne redouté depuis fort longtemps par les Palestiniens, et ces logements sont illégaux selon le droit international. Explication d'Alice Froussard à Jérusalem.
3401 logements à construire à Maaleh Adumim, l'une des principales colonies israéliennes à l'est de Jérusalem. Un bail de 98 ans, renouvelable, une échéance au 16 mars. D'apparence, il s'agit d'un appel d'offres comme les autres, mais celui-ci marque l'avancée concrète d'un projet israélien d'extension des colonies, le projet E1. Amir Daoud est le directeur de la documentation pour la Commission palestinienne de résistance aux murs et à la colonisation. Pour lui, cela illustre surtout l'impossibilité d'un retour en arrière.
La dangerosité de ce plan réside dans le fait que la puissance occupante israélienne a déjà commencé à mettre en œuvre le plan E1. Habituellement, il faut des années pour passer de la phase d'approbation à celle de la mise en œuvre. Cela révèle qu'Israël avance à un rythme effréné afin d'imposer une politique de fait accompli sur la géographie palestinienne.
Le projet avait été reporté pendant une trentaine d'années sous la pression internationale, mais en août 2025, le gouvernement israélien a validé sa mise en œuvre. Bezalel Smotrich, ministre des Finances et des Colonies, le décrivait alors comme un coup de grâce porté à l'idée d'un État palestinien, puisqu'il rend impossible la continuité géographique de la Cisjordanie occupée, confirme Daoud.
Nous disons toujours qu'il ne peut y avoir d'État palestinien sans la ville de Jérusalem. Deuxièmement, il ne peut pas non plus y avoir d'État palestinien sur une géographie morcelée, avec des gouvernorats complètement séparés les uns des autres.
D'après l'ONG Peace Now, Israël a surtout terminé l'année 2025 avec un record d'appels d'offres lancés, plus de 9600 logements. C'est plus que le cumul des 6 précédentes années. Alice Froussard, Jérusalem RFI.
La pression monte avant l'affiche de rêve prévue dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Duel de Lyon entre ceux de l'Atlas à domicile et ceux de la Teranga. Maroc-Sénégal, deux pays à la longue amitié, aux échanges culturels et économiques très anciens. Et cette relation, elle se matérialise dans un lieu, en particulier à Casablanca, le marché sénégalais. Mathias Rénal est allé y promener son micro.
Mathy tient un petit restaurant.
On attend le grand final avec plaisir. Si Maroc gagne, c'est bon. Parce qu'on est des Marocains. Maroc-Sénégal, c'est le même pays.
Le discours est le même à la virgule près chez l'agent de sécurité marocain, Moustapha.
Le Sénégal et le Maroc, c'est la même chose. Lors du match Sénégal-Égypte, en demi-finale, les Sénégalais ont fait la fête en agitant le drapeau marocain. Les Marocains, eux aussi, étaient contents pour le Sénégal.
Le tableau aurait pu rester ainsi parfait, mais au marché sénégalais, il n'y a pas que des Sénégalais, il y a aussi des commerçantes ivoiriennes, un tantinet chambreuse. Elles ont même détourné une chanson de la CAN 2023.
Moi je supporte le Maroc parce que le Maroc a donné l'année passée à la Côte d'Ivoire. Et cette année, je veux qu'on donne au Maroc. Vive Morocco !
On n'a pas de voisin, mon deuxième pays, c'est le Maroc.
Vive Morocco !
On ne veut plus tchèque, on ne veut plus manger tchèque, on veut manger tagine. Et il y a une Sénégalaise qui me régale, mais désolée, je suis marocaine.
Personne ne peut égaler les Marocains.
Nous sommes les champions d'Afrique, le Sénégal.
Mathias Rénal, Casablanca. RFI.
Casablanca où aura lieu demain le match pour la troisième place de cette CAN entre le Nigeria et l'Égypte. Coup d'envoi 16h, temps universel. Rendez-vous à 20h, TU et à Rabat. Cette fois pour la grande finale, c'est dimanche, Maroc-Sénégal.
Et puis Nemo, le plus vieux titre de presse français, fêtait son anniversaire ce jeudi.
Il a dû falloir un grand gâteau pour y poser 200 bougies. Le Figaro a 200 ans, première publication le 15 janvier 1826. Satirique à sa naissance, devenu journal de référence aujourd'hui, sa ligne éditoriale. Elle penche bien à droite. À cette occasion, une exposition éphémère avait lieu au Grand Palais à Paris et retraçait le long parcours du Figaro. Reportage Jean-Baptiste Brenne.
Il n'est pas encore 9h et pourtant la foule se presse déjà aux abords du Grand Palais. Comme beaucoup des fidèles du Figaro venus découvrir son histoire, Agnès est abonnée depuis sa jeunesse, comme ses parents avant elle.
Voir comment a évolué un journal, 200 ans, c'est fabuleux quoi.
L'exposition surprend même les plus fervents amateurs du titre, à l'image de Catherine, lectrice depuis plus de 30 ans.
Étonnant de découvrir qu'il s'agissait aussi d'un journal satirique.
À ses débuts, le Figaro est en effet bien loin de la ligne éditoriale de droite qu'on lui connaît aujourd'hui, explique Claire Blandin, historienne des médias et co-commissaire de l'exposition.
La ligne politique en 1826, c'est que c'est un journal d'opposition, c'est une petite feuille satirique qui s'oppose à la censure mise en place pendant la Restauration.
Dans la seconde moitié du 19e, le titre assume une ligne de centre-droit, mais Claire Blandin note que des organes annexes comme le Figaro Magazine ont souvent émergé pour défendre des opinions bien plus tranchées. Difficile de s'y retrouver depuis l'arrivée d'Internet.
La publication en ligne va gommer en partie l'origine des articles. Donc c'est vrai que ça rebat un peu les cartes.
Depuis plusieurs années, la frontière devient de plus en plus poreuse entre la ligne générale du Figaro et certains de ses organes comme le Figaro Vox qui donnent une place croissante aux idées conservatrices, voire d'extrême droite.
Jean-Baptiste Brenne du service France de RFI.
Et Nemo en piste pour le journal. 7h13 à Paris. Dans quelques minutes, les grands invités de la matinale, Maurice Safran et Nicolas Domenac, ils signent Néron à l'Elysée, où ils racontent la présidence d'Emmanuel Macron. Fulgurant dans sa conquête, écrivent-ils, incertain puis catastrophique dans l'exercice du pouvoir. Entretien dans moins de 10 minutes. Mais d'abord, les sports. Avec vous Christophe Diremzian, le football, la 18e journée de Ligue 1 démarre ce soir avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour recevoir Lille et reprendre de la confiance.
Bah oui, parce que ça va pas fort pour le PSG en ce moment, déjà éliminé de la Coupe de France par le Paris FC lundi et toujours devancé par Lens en championnat. Alors pas de quoi paniquer, hein, mais c'est peut-être le moment de chasser les doutes face à des Lillois qui eux en ont pas mal aussi, notamment sur le plan offensif, malgré leur 4e place au classement. Si l'entraîneur parisien Luis Enrique reste largement concentré sur la préparation de ce duel, Noël. Il garde également un œil sur la CAN et regardera certainement la finale Maroc-Sénégal de dimanche, histoire de voir ce que pourront y faire Achraf Hakimi et Ibrahim Baye, ces deux joueurs qu'il suit, mais qu'il laisse dans la bulle de leur sélection respective.
Normalement, je ne fais des messages ni rien. Je pense qu'ils sont tellement fatigués de me voir comme ils sont ici. Ils sont à Marruecos et... Non, rien. Je suis très content pour l'aider. C'est mérité. J'espère qu'ils profitent de cette finale. Ce n'est pas facile de jouer des finales, mais en même temps, je pense qu'un des deux, il reviendra énervé et agacé. Ce n'est pas possible d'être tous contents. Je leur souhaite le meilleur et on va voir.
On verra dimanche, effectivement, et on écoutera ça surtout sur RFI pour les auditeurs africains. Pour l'heure, PSG Lille, 20h TU. Autre match d'ouverture de cette 18e journée. Monaco-Lorient, 18h TU. En Espagne, le FC Barcelone qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en allant battre, logiquement, Santander, club de deuxième division, 2-0. Et puis en Serie A, le Milan AC l'emporte 3-1 à Côme. Match en retard de la 16e journée, grâce notamment à un doublé d'Adrien Rabiot. Les Rossoneri reviennent à 3 longueurs du leader et grand rival, l'Inter.
Démarrage sans problème à présent pour les handballeurs français à l'Euro 2026.
Les bleus tenants du titre ont surclassé la modeste République tchèque 42-28 pour leur premier match du tour préliminaire à Oslo. Hormis un trou d'air en première période, les joueurs de Guillaume Gilles n'ont jamais été inquiétés pour obtenir cette victoire prévisible. L'ailier Dylan Nahi était sur Beansport.
C'est sûr qu'aujourd'hui c'est une satisfaction générale. Voilà, on voulait la victoire. On l'a eu, je pense que ça a été une bonne première, une bonne entrée en lice. Donc on est assez content. Maintenant, voilà, les petits détails, c'est toujours à travailler. C'est le début du tournoi. On a le temps. Donc voilà, il faut juste bosser, voir ce qui n'a pas marché. Et prêt pour l'Ukraine.
Les Ukrainiens, prochains adversaires des Bleus demain, largement battus aussi par la Norvège, 39-22. Aujourd'hui, entrée en lice d'un des deux autres pays co-organisateurs de cet Euro, le Danemark, ultra favori face à la Macédoine du Nord.
Enfin, Christophe, on en sait un peu plus sur les premiers jours des Tours de France masculin et féminin 2027.
Oui, qui s'élanceront tous les deux de Grande-Bretagne. Celui des hommes s'élancera d'Édimbourg en Écosse pour descendre vers Liverpool, puis Cardiff avant de rejoindre l'Hexagone. Celui des dames partira de Leeds et passera notamment par Londres avant de traverser également la Manche à son tour.
Et Christophe Diremzian pour le Journal des Sports.
RFI Matin.
Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
L'Iran est secoué depuis plus de deux semaines par d'importantes manifestations réprimées dans le sang. Donald Trump n'exclut pas une intervention américaine pour affaiblir Téhéran, mais il menace aussi tous les pays qui font affaire avec la République islamique. S'il continue, ils seront soumis à des taxes douanières de 25%, car il est essentiel de le préciser, Stéphane, l'Iran reste un acteur du commerce mondial.
C'est vrai, car malgré des décennies de sanctions, des restrictions financières et un isolement politique croissant, l'Iran enregistre des échanges commerciaux avec de nombreux pays. En 2022, pratiquement 150 pays dans le monde échangeaient avec Téhéran. Autrement dit, les sanctions ne signifient pas zéro commerce, elles redéfinissent plutôt les échanges et surtout avec quels partenaires, selon quelles modalités et surtout, Marion, quels circuits parallèles.
Et donc, pourquoi autant de pays continuent de faire des affaires avec l'Iran ?
Eh bien, ça tient à la nature de l'économie iranienne. Le pays vend principalement des produits à forte valeur naturelle, des hydrocarbures, des dérivés pétroliers et des produits chimiques. De l'autre côté, Téhéran achète des biens nécessaires au fonctionnement de son appareil productif et à la consommation de sa population. Autrement dit, Marion, l'Iran échange une rente contre des capacités de production. Ça révèle une économie dépendante de l'extérieur pour ses machines, ses technologies, ses intrants agricoles et une part de ses biens alimentaires.
Et on en vient à la grande question. On parlait de pratiquement 150 pays qui commercent avec l'Iran. Qui sont les principaux ?
Alors, le principal partenaire commercial, c'est la Chine. 80% de tout le pétrole expédié par Téhéran l'an passé a été acheté par Pékin. Un lien qui est aussi stratégique, car avec les sanctions financières qui limitent les transactions en dollars ou en euros, la Chine s'est adaptée avec des mécanismes de paiement alternatifs. Et autour de ce pivot chinois gravitent d'autres économies asiatiques, l'Inde ou encore la Turquie.
Et vous disiez, les sanctions ne signifient pas zéro commerce. Du coup, est-ce que les pays qui sanctionnent Téhéran commercent avec ?
Eh bien oui, l'idée que tous les pays européens, par exemple, ont arrêté de faire des affaires avec l'Iran n'est pas vraie. Ce qui est vrai, c'est que l'UE a imposé et coordonné des sanctions contre Téhéran, oui. mais qu'il reste des flux commerciaux. Les volumes échangés ont évidemment nettement diminué. L'Allemagne reste l'un des principaux partenaires européens, même si on le répète, par rapport aux échanges avec qui on vient de citer, cela reste bien moindre. Concernant Berlin, on peut notamment noter des partenariats dans les secteurs pharmaceutiques, industriels, chimiques. En fait, cette relation euro-iranienne est marquée par une certaine ambiguïté. D'un côté, les entreprises européennes y voient un marché de plus de 85 millions d'habitants relativement sous-équipé. De l'autre, le risque juridique et financier lié aux sanctions. Tout cela freine toute ambition à grande échelle, évidemment.
Et c'est parce qu'encore beaucoup d'États font des affaires avec l'Iran que Donald Trump brandit la menace de surtaxes douanières.
Exactement, puisque si l'ambition c'est d'isoler économiquement Téhéran, le contre-coup c'est aussi de nuire à l'activité des entreprises et donc in fine des États. Et pour le régime iranien, le commerce extérieur c'est une condition de survie. Les recettes d'exportation financent le pays et les importations maintiennent des partenariats qui servent aussi de relais diplomatiques. En fait, Marion, le commerce international est à la fois pragmatique, stratégique et la situation iranienne en est une illustration supplémentaire.
Stéphane Geneste pour aujourd'hui l'économie. On reparle de l'Iran dans le journal de 8h, heure de Paris. On sera en direct de Téhéran. RFI, 7h20 à Paris. C'est l'histoire d'un homme exceptionnel qui s'est exceptionnellement planté. C'est par ces mots que débute Néron à l'Élysée, un livre publié chez Albin Michel. Cet homme exceptionnel, c'est le président français Emmanuel Macron, un homme auquel les auteurs du livre ont cru avant de le comparer à Néron, donc empereur de Rome à l'ambition démesurée, pyromane fou. Maurice Safran, Nicolas Domenac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux éditorialistes politiques, on peut vous lire notamment dans Challenge, et vous signez donc Néron à l'Élysée. Pendant cette lecture, je me suis inquiétée pour la santé du président. Il a un problème psychique, une profonde blessure narcissique, un trouble du spectre autistique. Il agit avec une inconscience telle que ça en est pathologique, disent vos différentes sources. Il faut s'inquiéter, Nicolas Domenac, pour lui et pour les Français aussi.
Écoutez, oui, puisque depuis notamment la dissolution, mais nous nous remontons bien avant, au fond, tous nos interlocuteurs consonnent sur le thème « on ne comprend pas ». Ce président, on ne le comprend plus. Pourquoi est-il dissous? Je veux dire, parce que d'abord en politique, après une défaite qui était une défaite cinglante, les européennes, je veux dire, il est impossible d'enchaîner sur une autre élection. Or, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'a fait cet homme qui est reconnu comme un des plus intelligents de la classe politique. C'est-à-dire, puisqu'il a été élu d'abord une première fois, puis réélu. Eh bien, il fallait bien trouver des explications et celle-ci repose, hélas, sur la psychologie qui n'est pas notre penchant naturel.
Alors, vous énumérez justement donc les erreurs d'Emmanuel Macron lors de ce second mandat. La plus grosse, donc, selon vous, Maurice Safran, c'est la dissolution de l'Assemblée en 2024.
Ça reste un mystère absolu. C'est-à-dire, quand on interroge les proches d'Emmanuel Macron, les adversaires d'Emmanuel Macron...
Oui, personne ne comprend et tout le monde le dissuade.
Les meilleurs analystes politiques de France, les psychologues, les psychanalystes, tout ce que vous voulez, personne n'est capable encore aujourd'hui de donner une explication cohérente. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que quelques jours... avant les élections européennes, Emmanuel Macron a expliqué avec la plus grande justesse, il avait parfaitement raison, qu'à élection européenne, il n'y avait que des conséquences européennes et certainement pas françaises. Et tout d'un coup, le dimanche à 6h15, on reçoit un coup de fil, Nicolas Domenac et moi, d'une personnalité industrielle, amie d'Emmanuel Macron, qui nous annonce la dissolution à 6h du soir. Mais on a éclaté de rire, on a dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est absolument n'importe quoi. Eh bien c'est lui qui avait raison.
Et alors c'est pour ça que vous le comparez à Néron, cet empereur de Rome, pyromane incendiaire.
Est-ce qu'on peut considérer qu'il est pyromane aujourd'hui de la société française? C'est ça l'idée, bien entendu. Aujourd'hui on est dans une situation, c'est pas uniquement de sa faute, loin de là, mais on est dans une situation totale, jamais, y compris sous la 4e République, la France n'a été aussi bloquée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Nicolas Domenac.
Oui, si je peux compléter ce que dit Maurice, c'est qu'il n'a pas cramé que la caisse. Vous savez, c'était l'expression de Valérie Pécresse, c'est-à-dire Emmanuel Macron a cramé la caisse. C'est-à-dire que ce n'est pas une question seulement de déficit public, c'est qu'il y a une idée en France de la monarchie républicaine, c'est-à-dire qui fait que le président de la République est le personnage essentiel, qui est investi d'une puissance quasi magique d'ailleurs, d'une certaine façon. Or, c'est ça qu'il a tué. Or, les Français, et pourquoi sont-ils déprimés à ce point aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont plus de grand chef à leur tête.
Alors, est-ce que pour autant... on va revenir là-dessus, mais pour vous, donc, la dissolution a eu un impact très négatif aussi sur sa réputation à l'international. Il y a tout un chapitre là-dessus, sur sa politique étrangère. À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui, Maurice Safran, la réputation d'Emmanuel Macron à l'international?
C'est très curieux, parce que sur un certain nombre de dossiers, il a eu raison. Sur l'Ukraine, par exemple, son analyse était juste. À certains moments, parce qu'il y a eu des sauts de puce et des changements, même plus que des sauts de puce, sur Israël, Palestine, il a eu également des initiatives qui étaient justes. Et en même temps, il a pris des initiatives totalement contradictoires. Donc il est extrêmement difficile de lire la politique étrangère d'Emmanuel Macron. On a l'impression que pendant un certain temps, il a essayé d'être le continuateur de la fameuse politique gaulliste de la France à l'étranger. Il n'y a pas vraiment réussi. Et c'est vrai que sa crédibilité a été très atteinte par cette fameuse dissolution.
Et l'une de ses grosses erreurs aussi, vous le dites, c'est peut-être aussi qu'il a pensé pouvoir peser face à Trump et Poutine, pouvoir faire changer d'avis Poutine sur l'Ukraine.
En tout cas, il a surestimé ses forces de manière absolument incroyable. En tout cas, il a organisé sa propre faiblesse au moment où on a un rapport de puissance à puissance, je veux dire, et quand vous l'entendez même dans ses vœux aux armées dire, au fond, pour être craint, il faut être puissant, sauf qu'il a organisé son impuissance, c'est ça qui est terrible. Il avait eu l'intuition juste, hein, notamment sur l'Europe, je veux dire, c'était prophétique ce qu'il a dit sur l'Europe, qu'il fallait une souveraineté, une armée européenne, sauf qu'il s'est débrouillé de telle façon, eh bien, d'organiser son impuissance.
Et vous écrivez même qu'il est tellement narcissique, tellement sûr de lui, que c'est une source, pardon, qui vous dit ça, qu'il prend les autres pour des cons, ce qui est une faute dans les négociations.
Non, mais en même temps, c'est vrai qu'on nous a dit ça. Il y a deux choses. Un, Emmanuel Macron pense qu'il peut séduire n'importe qui. C'est un grand séducteur, effectivement, et quand on est en face d'Emmanuel Macron, c'est très difficile de résister. Simplement, les deux monstres qu'il avait en face de lui, Trump et Poutine, c'est sans doute plus compliqué que de convaincre des journalistes français. Ça, c'est le premier point. Puis, secondo, tous les témoignages qu'on a eus montrent que dans les sommets européens, dans les G7, etc., il dominait les autres chefs d'État de la tête, il était très nettement au-dessus de tout le monde. Mais ça se termine mal, c'est ça qui est très curieux. Il est au-dessus de tout le monde, il connaît mieux les dossiers que tout le monde, il est plus brillant que tout le monde, tous les témoignages le confirment, et il y a un moment où ça coince.
Nicolas Donnelly, vous vouliez rapidement.
Oui, de très rapidement, c'est dire que simplement, pour ne prendre que l'Europe, ça se fait à plusieurs, l'Europe. Emmanuel Macron, il ne travaille pas à plusieurs. Il y a un moment, il pense qu'il est le meilleur de tous, qu'il est au-dessus de tous, et il n'a pas su, au fond, parce qu'il n'a pas l'expérience politique, mais ça, c'est une tare ontologique, si j'ose dire.
Alors, il y a quand même des qualités, j'en ai trouvé quelques-unes, même si à chaque fois, il y avait un mais. Quand on cherche bien, on le décrit comme Emmanuel Macron, hypermnésique, hyper compétent surtout, vous l'avez évoqué, Maurice Safran, une connaissance inouïe des dossiers dans les plus infimes détails. En gros, le président est compétent, c'est déjà ça. Et puis, il a une confiance à toute épreuve. Donc, tout ça, ce sont aussi des forces. Il n'y a quand même pas tout à jeter dans le macronisme.
C'est le plus frustrant, justement. Moi, je n'y étais pas à cette interview, mais Nicolas y était. On a fait à Challenge une grande interview sur le nucléaire, sur le pétrole, sur tout ce qui touche ces questions-là. Il n'avait pas une note, d'après ce qu'on m'a raconté, et ça a duré 3 heures, il était ultra brillant, et il connaissait le dossier mieux que le meilleur spécialiste. Donc il y a aucun doute là-dessus. C'est un type d'une très grande qualité. Or, sur le plan politique, ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement? Qu'est-ce qui explique qu'à partir du soir du deuxième tour de la deuxième élection présidentielle, 9 décisions sur 10 qu'il a prises depuis jusqu'aujourd'hui se sont avérées fausses. C'est un problème incroyable, et c'est sans doute ce qui nous a poussé vers la psychologisation d'Emmanuel Macron.
Et d'où votre déception qui est encore plus grande, parce que vous en attendiez beaucoup. Vous étiez plutôt séduit au départ par le programme d'Emmanuel Macron, Nicolas Domenech.
Et d'où ce titre, au fond, accrocheur et provocateur, le Néron, parce que, au fond, on a déjà fait un livre avant qui s'appelait « Pourquoi tant de haine ?» et il était dans le déni, le président. Il ne voulait pas croire que les Français le rejetaient à ce point-là. Or, le rejet était bien là, et pour attirer l'attention sur la nécessité, il faut que ce pouvoir qui est très fort en France du président, qu'on prenne des contre-feux, des contre-fous. Hein, et il n'en a pas. Il n'y a pas d'avocat du diable autour de lui. C'est quand même terrible.
Néron, à l'Élysée, qui vient de sortir, publié chez Albin Michel. Vous signez ce livre, Maurice Safran et Nicolas Domenac. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RFI.
Depuis 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du monde entier au cœur de Paris. Pour célébrer son anniversaire, elle présente l'exposition Paris des villes, intimité publique dans le cadre du Festival d'automne et réunit des artistes de toutes générations et de tous horizons autour de la question « Paris est-elle une ville hospitalière ?» à découvrir jusqu'au 24 janvier. Plus d'informations sur www.citedesartsparis.net en partenariat avec France Média Monde.
À l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Nous vous emmenons à la découverte d'un pays méconnu, le Timor oriental. Situé entre l'Australie et l'Indonésie, c'est la plus jeune démocratie du monde depuis son indépendance en 2002. Son économie dépend des hydrocarbures, mais aussi des ressources naturelles.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
La révolution tunisienne, 15 ans après.
Juliette Rangeval.
Que reste-t-il de la contestation qui a donné le coup d'envoi de ce qu'on a appelé les printemps arabes ? De la révolution de la dignité à la Tunisie de Kais Saied, nous parlons état de droit et démocratie.